L'autre voyage d'après Schubert, c'est à l'Opéra de Dijon, à l'Auditorium, ce mercredi et ce vendredi soir. Coproduction entre l'Opéra de Dijon et l'Opéra Comique à Paris. L'ensemble Pygmalion, des solistes dont on va parler, et puis à la tête de tout ça, c'est vous, Raphaël Pigeon. Est-ce que les Dijonnais vont voir le même spectacle que celui qu'ont pu voir avant eux les Parisiens ?
Oui, bien sûr, absolument. C'est, comme vous le disiez, une coproduction et nous sommes très heureux de venir présenter à Dijon ce spectacle très singulier, une aventure très particulière dont je suis très très heureux et qui offre l'occasion de découvrir, ou peut-être pour certains de redécouvrir, une musique extraordinaire d'un de nos plus grands compositeurs, peut-être celui capable d'une intimité avec le spectateur absolument unique, qui est Franz Schubert.
Mais alors, c'est pas un terrain sur lequel on vous attend nécessairement. Quand on dit Pygmalion, on pense musique baroque.
Moi, je vous dirais que ça fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes pleinement investis aussi dans le répertoire classique, que nous avons passé beaucoup, beaucoup de temps avec Mozart, différentes productions d'opéra, et puis ensuite aussi avec le premier romantisme, avec des compositeurs comme Mendelssohn, comme Brahms, comme Schumann. Donc, quelque part, aujourd'hui, de continuer à explorer Franz Schubert est un chemin assez naturel maintenant pour nous.
Il y a un nom que l'on n'a pas encore prononcé, c'est celui de la metteuse en scène, Sylvia Costa. Qui a eu l'idée de cet opéra qui n'en est pas un, comme l'écrivent certains?
Il se trouve que je voulais absolument que l'on passe plus de temps aux côtés de Schubert. Et donc, nous avons d'abord. J'aime beaucoup, quand on commence à explorer un aussi grand compositeur que Schubert, ne pas tout de suite s'attacher au grand chef-d'œuvre, mais essayer de se construire une intimité avec ce compositeur en visitant ce que j'appelle un peu les couloirs de ces grands compositeurs. Et donc, dans l'un de ces couloirs, j'ai découvert une sorte d'énigme, une énigme très simple, c'est que Schubert a écrit presque autant d'opéras, si l'on parle en tant que quantité de musique qu'à certains Mozart, et pourtant tout ce répertoire d'opéra nous est caché, on ne l'entend pas aujourd'hui, et donc je voulais questionner ce répertoire, et c'est à partir de cette exploration de toutes ces partitions inachevées que m'est venue l'envie, l'intuition, l'idée de ce projet, et ensuite de le confier à une femme, je dirais toute schubertienne, en tout cas qui en partage beaucoup des thématiques qui se dégagent de sa musique, qui est Sylvia Costa.
Est-ce que je schématise trop si je dis que vous avez rassemblé un certain nombre de morceaux que vous avez choisis pour ensuite construire avec Sylvia Costa un fil rouge, un peu comme on assemble les perles sur un fil?
Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire que, tout d'abord, je me suis posé la question de savoir est-ce que dans toutes ces œuvres, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a près d'une quinzaine d'opéras que Schubert tente de mettre en chantier, tente d'écrire, avec dont la plupart sont inachevés. Et je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas une œuvre qui se tienne, est-ce qu'il n'y aurait pas une œuvre qui mériterait une résurrection ou de s'en emparer telle quelle. Après être arrivé à la conclusion que non, parce que soit pour des histoires de justement parce qu'elles sont inachevées, soit parce que le livret est vraiment particulier, je me suis par contre rendu compte que chacune de ces œuvres possédait des fulgurances, possédait des moments vraiment d'épiphanie, si je puis dire, d'où cette idée de recréer un écrin. De se donner la liberté d'inventer l'écrin capable de révéler cette musique et de nous la transmettre aujourd'hui. Et ensuite, c'est avec Sylvia Costa que nous avons ensemble tissé. Moi, j'ai sélectionné évidemment beaucoup de moments, beaucoup de pièces, mais c'est ensemble que nous avons vraiment, dans un travail collégial, que nous avons façonner petit à petit cette soirée.
Façonner la soirée et, d'une certaine manière, imaginer une histoire. On ne va pas tout raconter, bien sûr. On a au départ un médecin légiste qui réalise sa propre autopsie. C'est dire le début, mais ça n'est pas on dire assez. Maintenant, faut-il tout dire?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet, je crois qu'il est, il s'adresse à tous. Je crois qu'il a la capacité de toucher tout le monde. J'entends par là que nous sommes très loin de l'opéra. Schubert est un compositeur d'une infinie timidité, d'une infinie réserve. C'est un homme du secret. C'est un homme de l'intime. C'est un homme qui se cache derrière sa musique qui, elle, est d'une profondeur et d'une vérité parfois désarmante. Et donc, à l'époque, puisque ces opéras sont écrits à peu près dans les années 1815, 1820, nous sommes en Autriche, à Vienne, et à cette époque-là, règne sur les scènes de Vienne, notamment un certain Rossini, qui captive les foules avec des opéras, avec des histoires souvent assez simples, avec une expression très expansive. Et Schubert est très très loin de ces codes-là. Et donc on peut imaginer que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à rencontrer le monde de l'opéra. Et donc nous, ce que nous voulions recréer, c'était finalement tout sauf un opéra. Et cette soirée est une sorte de méditation humaine, un voyage à travers un deuil, à travers toute une sorte de voyage intérieur, de voyage mental autour du personnage central du baryton, qui va successivement connaître différentes étapes avant d'approcher une forme de sérénité. Donc une sorte de méditation humaine qui cherche à rendre justice à cette musique tout en s'écartant des codes de l'opéra de cette époque-là.
Steine, Blumen aus Staube gesprost und modernde Menschen Gebeine, Tod und Vernichtung um mich her. Und ich, vielleicht noch heut, dir liegenden Toten genoss. Hinabgesenkt in furchtbare Tiefe, verloschen dann, was in mir denkt. Vertilgt aus Gottes Schöpfung, vertilgt aus Gottes Schöpfung.
Il faut parler de Stéphane Degout, c'est pas votre première collaboration.
Stéphane Degout est un artiste immense, un compagnon de route maintenant avec Pygmalion et avec moi-même depuis plus de 10 ans. Nous avons partagé un grand nombre de projets, c'est une grande aventure humaine et musicale entre nous, et je suis très heureux. C'était une évidence que ce projet se cristallise aussi autour de lui, et il est, oui, l'âme de ce projet, avec cette voix de baryton aujourd'hui vraiment arrivé au plénum. Il est en pleine possession de ses moyens, et il est capable de tisser une relation avec le public absolument extraordinaire par ses couleurs, par son art du verbe, par sa manière de venir à nous, de aussi de se livrer. C'est un artiste extraordinaire et qui a absolument toute sa place dans ce projet.
Au-delà de Stéphane Degout, il faut aussi parler de la femme du médecin.
Ce spectacle s'articule autour, on va dire, de quatre figures. Celle de l'homme, qui est pleinement investi dans ce voyage mental. Cet homme, effectivement, est épaulé par une figure très importante aussi, qui est la figure féminine, qui est à la fois l'amante, la femme de ce baryton, une soprano, une magnifique soprano australienne qui s'appelle Siobhan Stack. Et puis il est aussi guidé tout au long de ce voyage par une sorte d'ange, d'ami, qui le prend par la main et qui l'emmène sur tous ces sentiers émotionnels, à savoir un jeune ténor anglais avec une voix d'un charme extraordinaire, qui s'appelle Lawrence Kilsby, qui est vraiment de l'or dans la voix. Et dernier protagoniste très important, c'est celui de l'enfant, parce que cet homme a un enfant. On comprend assez vite que cet enfant est parti trop tôt et que le deuil de cet enfant est peut-être la blessure la plus importante de son parcours de vie. Et cet enfant est chanté par un tout jeune enfant qui arrive au bout d'ailleurs de sa propre aventure vocale, parce qu'il est déjà en train de muer, et qui s'appelle Shadi Lazrek. Et pour ceux qui viendront découvrir ce spectacle, qui nous livre des moments aussi assez particuliers, quelques surprises sur scène que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, c'est à peu près les quatre personnages principaux de ce spectacle, épaulés par aussi la présence telle une ombre qui existe tout au long de ce spectacle, un personnage très important qui est celui du cœur.
Thank you.
Raphaël Pichon, l'autre voyage, est-ce que c'est une sorte de suite à un voyage alors que l'on connaît bien chez Schubert, éminemment chez Schubert, le voyage d'hiver?
Oui, effectivement, nous voulions quelque part commencer ce récit là où le voyage d'hiver s'arrête, parce que finalement, les plus grandes fresques qui pourraient avoir une certaine parenté avec l'opéra que Schubert nous a livré, ce sont ces cycles de Lieder, donc ces cycles de chansons. Et le voyage d'hiver en est peut-être l'exemple le plus célèbre. Et à la fin de ce voyage d'hiver, eh bien, la mort rôde près de notre narrateur à travers une ultime chanson qui s'appelle Le joueur de biel, qui est un lied très très connu, qui est dans une grande nudité avec une mélodie très très simple qui semble un peu remonter de façon immémorielle depuis les temps anciens. Eh bien, c'est cette mélodie que nous utilisons dans une transcription faite par Johannes Brahms. Et qui ouvre ce spectacle. Donc, quelque part, oui, nous nous ancrons dans la fin du voyage d'hiver pour continuer, pour aller plus loin et se présenter devant la mort avec différentes blessures et surtout dans une quête de lumière, parce que c'est ça que Schubert nous apporte. Schubert est un compositeur qui nous console, nous écoute, nous guide et a une capacité à penser les blessures qui est extraordinaire. Voilà une musique moi qui je trouve n'a pas perdu un centimètre de sa force est capable aujourd'hui de nous toucher d'une manière extrêmement intime et c'est ça que nous voulions transmettre par ce projet.
Im Staube nur einmal ich untergehe, so froh wie sonst, als ich noch süßen Traum vom ewigen Leben träumte. Vor dir beten, vor dir.
Raphaël Pichon, nos grands-mères disaient parfois qu'ils trop embrassent mal étreint. Alors, si c'est une déclaration d'amour faite à Schubert, je l'ai lu quelque part dans votre démarche, est-ce qu'il y a des choses tout de même où vous vous êtes dit en concevant ce spectacle avec Sylvia Costa? Non, tu ne peux pas faire ça.
Bien sûr, j'aime ce type de risque. Je trouve que le monde de l'opéra doit trouver des nouvelles articulations, et je crois que c'est le cas de beaucoup de musiciens, de beaucoup de programmateurs, de la jeune génération qui se pose beaucoup de questions sur l'objet opéra aujourd'hui, comment continuer à ce que cet objet ait des choses à nous dire pertinentes aujourd'hui. Comment continuer à trouver sa place dans un monde qui a profondément changé et envahi de musique, envahi de propositions. J'aime prendre ces risques, de chercher d'autres formes. Cette quête, elle est évidemment pétrie de doutes. Elle est terrible, surtout quand on est en face d'une telle musique, d'un tel génie. Et donc, c'est un travail qui doit se faire avec un vrai souci de respect du matériau originel, avec un souci de cohérence, mais aussi sur lequel doit souffler un vent de liberté. Mais oui, j'ai rarement autant douté qu'avec ce projet de savoir si nous sommes au bon endroit, si nous ne trahissons rien du message originel de ces pièces. Donc on se met au service d'une musique, on se met au service d'un compositeur. mais avec cette volonté de le traduire par nos intuitions, notre vocabulaire, notre grammaire, en espérant que le public va être capable de plonger avec nous et recevoir cette musique avec la plus grande acuité possible.
L'autre voyage d'après Schubert, opéra de Dijon, l'auditorium, ce mercredi, ce vendredi, c'est à 20h. Et puis, si vous avez loupé le spectacle sans les images, vous pouvez peut-être en retrouver la musique le lendemain. Sur France Musique, c'est programmé à 20h. On met les liens sur le site de BFC Classique.